En cette fête de la Toussaint, je suis heureux de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la joie du pardon, la joie de la mission et la joie de la résurrection dans l'évangile de Luc. Dans cet évangile, tout est joie. Dieu met sa miséricorde à la portée des hommes. En même temps que Jésus invite au repas des noces, il presse à la conversion. La nouveauté annoncée par l'Évangile peut vaincre toutes les scléroses et les tristesses. Le pardon de Dieu bouleverse le cœur, puis l'entraîne à se convertir, réveillant la joie qui sommeille en chacun. On le voit chez Zachée, cet homme petit en taille, en amour et en joie. Il reçoit de Jésus l'amour qu'il recherchait, et dès lors, ce n'est pas un sacrifice pour lui que de tout rendre aux pauvres. La découverte de l'amour de Jésus provoque en lui le désir de changer de vie. En lui demandant l'hospitalité, Jésus a mis le pardon de Dieu à sa portée. La joie que cause un tel geste conduit immédiatement Zachée à partager ses biens et à réparer ses fautes. L'allégresse du converti est en accord avec celle du Père et des anges. Je cite « Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Jésus répète cette phrase dans la parabole de la drachme égarée, dans celle de la brebis perdue et celle du fils prodigue. Oui, le Père se réjouit de donner le pardon, de retrouver ce qu'il a perdu et ses véritables enfants, comme dans les paraboles, les amis de la ménagère, les compagnons du berger ou les anges de Dieu partagent cette joie. La joie qui couronne tous les dons de Dieu est le signe d'une vraie conversion. La joie du pardon reçu et de la vie nouvelle qu'il permet est participation à la joie de Dieu lui-même. Luc nous apprend que nous pouvons donner de la joie à Dieu et à tout le ciel. Là se trouve notre vrai bonheur. Nous avons vu que, envoyés comme des agneaux au milieu des loups, les 72 disciples revinrent tout joyeux de leur mission. D'où leur vient cette joie? L'annonce du salut est source de joie pour ceux qui le reçoivent. Un sauveur est promis, le règne de Dieu est annoncé. Dieu manifeste sa grâce en comblant les espoirs de justice attendus. Les pauvres peuvent se réjouir, leur misère va cesser. Le pardon sera répandu dans tous les cœurs. Le missionnaire qui croit en ce qu'il annonce ne peut être que joyeux, sinon il serait un bien piètre annonciateur de bonnes nouvelles. Le succès de la mission peut cependant illusionner. Même les esprits mauvais nous sont soumis en tournant, s'exclament les missionnaires après leur première tentative. Mais Jésus oriente cette joie vers une joie plus grande encore. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Annoncer le salut est source de joie pour celui qui l'annonce comme pour celui qui l'accueille. La joie n'est parfaite que lorsqu'elle est partagée. C'est pourquoi Marie n'a pu chanter son Magnificat qu'après avoir confié son secret à Élisabeth. Même les persécutions ne peuvent ôter la joie des missionnaires, mieux encore, elles ne font que la rendre plus intense parce que le cœur est orienté vers un autre avenir. Ainsi, nous lisons au chapitre 6, versets 22-23, à la fin des Béatitudes. « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. » De même qu'à Gethsémani, les apôtres étaient, au dire de Luc, endormis de tristesse, la rencontre du ressuscité les submerge de joie à tel point qu'ils ne peuvent en croire leurs yeux et leurs oreilles. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» est-il écrit au chapitre 24, verset 41. Les disciples d'Emmaüs, dont le cœur était tout brûlant, sont repartis en courant vers Jérusalem à la nuit tombante, tant leur joie débordait après leur rencontre avec le ressuscité. La joie de cette rencontre est tellement grande, tellement incroyable, qu'elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui encore. Luc termine son évangile en nous disant que les disciples, ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. La résurrection est source de toute joie, car elle porte en elle la force, la vigueur et la joie de ce retour éternel de l'humanité en Dieu. La vie n'est plus une voie sans issue, elle est route vers le ciel de Dieu, le chemin du retour au Père. Cette joie des vrais disciples, personne ne peut la leur enlever. C'est la joie d'une rencontre, d'une amitié qui change toute la vie et lui donne un sens. Mère Teresa disait, je cite, Ne laissez jamais le chagrin vous noyer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Nous aspirons tous au ciel où est Dieu, mais nous avons le pouvoir de nous trouver dès maintenant dans le ciel. Il suffit d'être heureux avec lui en cet instant précis. Et Madeleine Delbrel écrit dans son livre La joie de croire, je cite, L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. Il n'est pas fait pour être compris, mais pour être absorbé comme un seuil de mystère. Il n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. Chacune de ces paroles est esprit de vie, agile et libre. Elles n'attendent que l'avidité de notre âme pour fusionner en elles. Vivantes, elles sont elles-mêmes comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d'un mode de vie nouveau. Les paroles des livres humains se comprennent et se soupèsent. Les paroles de l'Évangile sont subies et supportées. Nous assimilons les paroles des livres. Les paroles de l'Évangile nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent pour ainsi dire à elles. Les paroles de l'Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas parce que nous ne leur demandons pas de nous transformer. Mais dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ses exemples demeure la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. À la condition d'être vis-à-vis de lui comme le paralytique ou le centurion, d'agir immédiatement en pleine obéissance. L'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les passer dans notre vie, mais il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, nous ne sommes pas en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. À demain.